Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Ô Seigneur, il fait bon d'être dans ta présence. Il fait bon de te chanter, de te louer, de t'adorer et de nous exprimer devant toi. Nous avons commencé une nouvelle étape de notre méditation sur le thème de la grâce et de la loi. Et nous avons donné une petite introduction dimanche dernier que nous voulons poursuivre aujourd'hui sur les 10 commandements dans le monde d'aujourd'hui au 21e siècle. Voyez-vous, la parole de Dieu ne s'annule pas. La parole de Dieu est bonne. Depuis la première page jusqu'à la dernière, elle est actuelle depuis la première page jusqu'à la dernière. N'écoutez pas ceux qui vous disent que cette parole doit être adaptée selon les besoins de notre société d'aujourd'hui, selon les nouvelles normes. Il n'y a pas de nouvelles normes quant à la foi. La foi d'Abraham, c'est la foi que nous devons professer aujourd'hui. Et c'est la foi qui subsiste jusqu'au jour où la trompette sonnera. Car c'est par cette foi que nous vaincrons dans le combat que nous menons ici-bas sur cette terre. Donc cette parole est actuelle. Elle est actuelle car l'homme duquel elle parle, c'est le même. Qu'il soit de n'importe quelle race, de n'importe quelle tribu ou de n'importe quelle culture, c'est toujours le même individu avec le même cerveau, la même compréhension, la même pensée. Si les cultures diffèrent, l'homme fondamentalement parlant reste le même. Le même individu qui a besoin de la grâce de Dieu et qui a besoin de la connaissance, de la volonté de Dieu, selon ce qu'il désire qu'il soit. Ce standard si élevé, que Dieu veut faire connaître et auquel nous ne pouvons parvenir par nous-mêmes. C'est pour cela qu'il est dit que personne ne peut être sauvé par la loi. Mais la grâce est intervenue. La grâce est intervenue. Et ce sont des principes que j'aimerais que vous compreniez, que nous comprenions tous, frères et sœurs. En nous efforçant à faire les œuvres de la loi, nous ne pouvons jamais parvenir au salut. La loi est pour nous mort, mais elle devient vie lorsque la grâce agit en nous. Et cette loi ne perd jamais de son intégrité et de sa signification. Du reste, il est bien dit, dans le Nouveau Testament, dans 1 Jean 2, 3 à 6, il est dit ceci: « À ceci nous reconnaissons que nous l'avons connu, si nous gardons ses commandements. » Ses commandements, la Bible, ce sont tous ses commandements. Il y a des commandements spécifiques, bien sûr, et nous voulons essayer d'étudier ces 10 commandements qui sont comme un concentré de la volonté de Dieu pour notre marche, à nous, ses enfants. Mais ces commandements, c'est tout l'ensemble de ce qui nous exprime à travers sa sainte parole. À ceci, nous reconnaissons que nous l'avons connu. Si nous gardons ses commandements, celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements, est un menteur et la vérité n'est pas en lui. Or, il est dit que les menteurs n'hériteront pas du royaume des cieux. Mais celui qui garde ses paroles, car ses paroles sont ses commandements, l'amour de Dieu est vraiment parfait en lui. Parfait en lui. À ceci, nous reconnaissons que nous sommes en lui. Celui qui déclare demeurer en lui doit marcher aussi, comme lui, le Seigneur, a marché. Voilà. Il doit. Il n'est pas dit il doit faire son possible. Il n'est pas dit que il lui est recommandé de. Il n'est pas dit que voilà l'idéal auquel il doit tendre autant que possible. Non, c'est un ordre impératif. C'est un commandement. Il doit. Celui qui déclare demeurer en lui doit marcher aussi comme lui, le Seigneur, a marché. Est-ce que lorsque nous marchons sur les chemins de la vie ici-bas, que nous marchons sur les routes de Kinshasa, que nous prenons l'avion et que nous voyageons où que ce soit à travers le monde, est-ce que nous marchons comme lui marcherait à notre place? Évidemment, de son temps, il n'y avait pas d'avion. Évidemment, de son temps, il n'y avait pas de voiture. Peu importe, comment est-ce que nous marchons de notre temps? Marchons-nous avec lui et marchons-nous comme lui a marché. Voilà l'idéal de la vie chrétienne. Donc, l'apôtre Jean, dans le Nouveau Testament, ne nous dit pas que le commandement est absolument mis de côté, étant donné que nous vivons par la grâce, que le commandement pour nous n'existe plus. Il existe. Nous ne pouvons marcher comme il a marché, sans le secours de la grâce et le secours du Saint-Esprit. Les 10 commandements qui ont été donnés à Moïse sont aussi nécessaires à nous qu'ils étaient nécessaires en Israël en ce temps lorsqu'ils ont été communiqués à Moïse. S'ils étaient nécessaires dans ces temps-là, à plus forte raison dans les derniers temps, car rien n'a changé dans la parole de Dieu. Mais là, nous avons la loi dans ces 10 commandements. La loi par excellence. La loi dans toute sa rigidité et ses exigences. Et aujourd'hui, nous sommes sous la grâce. En quoi cela nous concerne-t-il? Beaucoup de gens sont troublés avec cela. Et cette semaine, à la réunion que nous avions, la réunion de prière, un jeune homme qui suit bien tout ce que nous disons ici est venu. Et alors, il me semblait qu'il était troublé, parce qu'il lisait, il a lu, et il m'a donné beaucoup de passages dans la parole de Dieu que je connais, sur lesquels j'ai prêché, dans les Galates, dans les Romains, sur la grâce, la loi qu'on ne peut vivre par elle. Et d'une certaine manière, il semblait, quant à moi, qu'il était troublé, parce que nous prêchons ici, depuis dimanche dernier, que les 10 commandements sont encore valables. C'est vrai, mais mes frères et sœurs, nous pouvons nous efforcer à y obéir, mais ce n'est pas ça qui va nous faire rentrer dans le royaume des cieux. Est-ce que Jésus n'a pas dit que celui qui est transgresseur d'un commandement est transgresseur de tous? Bien sûr qu'il l'a dit. Donc ces 10 commandements ne peuvent nous faire entrer dans le royaume des cieux. Mais ceci ne veut pas dire qu'ils deviennent inutiles et que nous devons les jeter derrière nous. Ceci veut dire que dans les dimensions de la grâce, lorsque nous violons un de ces commandements, nous nous jetons aux pieds de Jésus-Christ. Seigneur, j'ai péché, car nous avons un avocat auprès de Dieu, Jésus-Christ le Fils. Qui prendra notre défense? J'ai versé mon sang pour le sauver, afin de le changer, afin de le transformer. Et s'il a violé un de ses commandements, aussi petit soit-il, mon sang a coulé afin de le purifier. Et je le prends par la main, afin qu'il marche et qu'il avance dans la sanctification. La sanctification, comprenons-le bien, c'est un processus de croissance. La sanctification, ce n'est pas encore la sainteté. La sanctification, c'est un processus de croissance. Si tu ne grandis pas quant à ta foi, tu es en grand danger. Mais il faut que, après que tu as été converti, qu'il y ait une croissance régulière. Et s'il n'y a pas de croissance, il y a recul. La perfection, nous l'atteindrons en ce jour, lorsque nous serons devant lui. Et que nous serons débarrassés de ce corps de chair. Oui, nous sommes sous la grâce, mais ces commandements nous concernent jusqu'à aujourd'hui. La loi n'est pas abolie, mais elle est renforcée, justement. Elle est renforcée par la grâce. La grâce nous parle d'amour, nous parle de pardon, nous parle de patience. La grâce nous parle de toute la nature de Jésus qui est venu ici-bas sur la terre et qui a supporté et qui a aimé ceux qui n'étaient pas aimables. La grâce, elle a été avant la loi. Israël a expérimenté puissamment et de façon dramatique la grâce de Dieu. La délivrance par la grâce a précédé les commandements de la loi. Il y a eu d'abord la grâce avant la loi. L'évangile de la bonne nouvelle était là dans l'Ancien Testament. L'évangile de la délivrance est placé à la tête avant la loi. La théologie d'Israël se cristallise dans l'expérience. Avant, lorsqu'Israël était esclave en Égypte, il n'avait aucun sens de la théologie du Dieu de grâce, du Dieu juste et saint qui ne peut voir le mal. Mais, à cause de l'expérience, la théologie a été donnée par l'expérience. De même en est-il jusque dans le Nouveau Testament. Lorsque Jésus a dit aux disciples, « Vous attendrez à Jérusalem jusqu'à ce que vous receviez de la puissance. » Ils ne connaissaient pas la théologie ni la doctrine. Ils n'en connaissaient rien. Rien n'avait été écrit ou établi. Et ils ne s'étaient pas assis sur des bancs pour écouter un professeur pour leur enseigner ses doctrines et cette théologie. Ils ont entendu quelque chose que Dieu avait promis et qui était bon. Mais quoi? Ils ne savaient pas au juste. Il y a eu l'expérience, gloire à Dieu, une glorieuse expérience. Ils ont eu l'expérience avant d'avoir eu la doctrine, avant d'avoir eu la théorie. Voilà la théologie dans laquelle je crois. Tel il en était pour Israël. La théologie d'Israël se cristallise dans l'expérience. L'expérience fait la théologie. L'expérience avec Dieu. Nous sommes loin de l'abstrait. Nous sommes loin des théories. Il y en a tant aujourd'hui qui apprennent des théories savantes, mais qui n'ont jamais eu l'expérience. C'est pourquoi leur théologie est morte. Dans Exode chapitre 3, versets 7 à 8, il est dit, « L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer. » Là, nous voyons la nature même de Dieu, son caractère et ses relations avec Israël. Et ceci avant le commandement tel que énoncé au Sinaï. Ne pensons pas qu'il n'y avait pas de commandement avant Sinaï. Ne pensons pas que Dieu n'avait pas donné des principes de base à Abraham, à Isaac et à Jacob. Combien de fois il les a exhortés de marcher selon ses voies et ses commandements, en obéissance à sa parole. Combien de fois ne leur a-t-il pas parlé personnellement de différentes façons pour leur faire connaître sa volonté? Les commandements de Dieu sont la volonté de Dieu. Ne séparons pas ces choses les unes des autres. La volonté de Dieu a été exprimée avant Sinaï. Et s'il a été exprimé de façon dramatique à Sinaï, c'est afin d'attirer l'attention des hommes d'alors jusqu'aux hommes d'aujourd'hui et qu'ils sachent parfaitement quelle est la volonté du Dieu que nous prétendons servir. Dieu a vu la misère de son peuple. Il a entendu ses cris. Il connaît ses souffrances. Il est descendu pour délivrer. Ça, ce sont des belles paroles. C'est pourquoi il s'est fait connaître comme, Exode 22, 20, verset 2, le Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Ce Dieu a répété son acte vis-à-vis de l'humanité. Il a vu la misère du péché dans le monde. Il a vu notre esclavage dominé par Satan. Il a entendu nos gémissements sous l'esclavage de Satan, du péché, de la maladie, de la débauche, de la guerre, de la souffrance. Il a entendu les gémissements de tous ceux qu'il a créés et qui, comme aveugles dans le noir, liés de chaînes, servaient Satan. Il a vu la malédiction qui reposait sur nous. Il a vu l'esclavage dans lequel nous étions. C'est pourquoi, l'ayant vu, ayant entendu, connaissant nos souffrances, il est descendu pour délivrer. Alléluia. Celui qui est descendu pour délivrer, c'est le Dieu puissant qui a pris la forme de l'homme et qui est né à Bethléem et qui a parcouru les rues de Galilée, des villes de Galilée et de Judée, et qui a parcouru les rues de Jérusalem, qui a guéri les malades, qui a ressuscité les morts, qui a chassé les démons, qui a rendu libres les opprimés, qui a ouvert les portes des prisons et des esclaves de Satan. Il est descendu pour délivrer. Vous voyez donc qu'il y a une parallèle très nette entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Le Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, le Dieu qui t'a fait sortir de l'esclavage de Satan, il s'est manifesté en Jésus-Christ, car il a voulu faire de toi un homme libre, une femme libre. Cette expérience de la grâce a pour résultat la libération de l'esclavage. À main forte et à bras étendus. Voilà les termes employés par la parole de Dieu. Vous vous souvenez des 10 plaies d'Égypte? L'eau changée en sang, l'invasion des grenouilles, les moustiques, les mouches venimeuses, la peste du bétail, les ulcères, la grêle, les sauterelles, les ténèbres, et enfin le pire, la mort de tous les premiers-nés d'Égypte. Est-ce que Dieu n'avait pas compassion envers les gens de l'Égypte? Bien sûr qu'il avait compassion, mais leur cœur s'était endurci. Et il leur a parlé à travers leur propre Dieu. Ils adoraient le fleuve du Nil. Ils adoraient tout ce qui était dans le fleuve. Et Dieu a utilisé les eaux du Nil changées en sang pour les maudire, leur Dieu. Il a utilisé tout ce qui sortait de ce fleuve pour les punir, afin qu'ils réfléchissent. Or, nous savons qu'une grande quantité de ces Égyptiens sont sortis d'Égypte en même temps qu'Israël. Ils avaient vu la puissance de Dieu en action, du Dieu d'Israël. À main forte et à bras étendus, la grâce se manifeste dans la délivrance. Elle se manifeste dans la provision. Il pourvoit. Elle se manifeste dans la sollicitude de Dieu. Sollicitude et patience. Alors que nous ne comprenons pas. Alors que comme les Israélites sortis d'Égypte, nous sommes tout le temps en train de nous plaindre et d'avoir des arguments et d'avoir toutes sortes de choses qui nous empêchent d'avancer. Si nous sommes encore depuis si longtemps dans le désert, ne serait-ce pas notre faute? Brisons ce cœur si dur. La sollicitude de Dieu, la patience de Dieu, sa protection envers son peuple au milieu du désert. La dépendance de son peuple vis-à-vis de son Dieu. Dieu les a fait passer dans un désert. Ils ne pouvaient pas s'appuyer sur le bras de qui que ce soit. Il n'y avait pas de plantation. Il n'y avait pas de jardin. Il n'y avait pas de source d'eau. Même le meilleur ingénieur agricole ne pouvait rien faire pousser dans ce désert. Un désert aride. Et c'est là que Dieu a voulu qu'ils passent, afin qu'ils apprennent à compter sur leur Dieu. Peut-être que tu passes à travers le désert, toi aussi. Un désert aride, et tu ne sais comment t'en sortir. Tu n'as pas d'argent, rien ne marche, tout est détruit. Rien. Pourtant, tu as quelque chose. Tu as le Dieu qui pourvoira. Tu as le Dieu qui pourvoira. Et puisque tu es dans le désert, c'est le moment d'expérimenter sa puissance. Et cette puissance se manifestera par la foi. Compte sur lui. Il est vrai qu'il y avait des jours où Israël manquait d'eau. Il est vrai qu'il y avait des jours où Israël manquait de nourriture. Dieu ne l'ignorait pas, mais Dieu permettait ce passage dans la souffrance pour l'éprouver. Es-tu capable de passer à travers l'épreuve ou vas-tu murmurer comme ils l'ont fait et te tourner contre lui en murmurant mécontent? Malgré cela, il a fait jaillir les sources d'eau du rocher. Malgré cela, il a changé l'eau amère en eau douce. Malgré cela, il les a nourris chaque matin de la manne qui tombait du ciel. Le Dieu qui pourvoit. Il te dit ce matin, comme il a pourvu pour eux, il pourvoira pour toi. Nous ne sommes pas là pour vous réclamer de l'argent ou de l'or. Nous ne sommes pas là pour vous dire « donnez-nous et vous serez bénis ». Nous sommes là pour vous dire « Jésus est avec vous et Jésus... » Et si nous passons par l'expérience du désert, il va vous donner ce qui vous est nécessaire. Et vous, en retour, vous donnerez ce qui appartient à Dieu, c'est-à-dire la dîme. Aucun d'entre nous, nous ne sommes là pour nous enrichir. Que ce soit moi qui vous prêche, que ce soit vous qui écoutez, que ce soit vous qui conduisez la musique ou la chorale, que ce soit vous qui enseignez à l'école biblique. Nous ne sommes pas là pour nous enrichir des biens de ce monde, mais nous sommes là pour nous enrichir des biens éternels. Et nous savons que si nous sommes fidèles, écoutez-moi bien, je ne prêche pas la pauvreté, mais nous savons que si nous sommes fidèles, Dieu nous donnera tout ce dont nous avons besoin. Si nous avons besoin d'une voiture comme outil de travail, il nous le donnera. Si nous avons besoin d'une maison pour avoir une vie plus décente, Dieu nous donnera la maison. Si nous avons besoin d'un bon travail, Dieu nous donnera ce bon travail. Et parce que Dieu pourvoit, nous donnerons pour que cet évangile soit connu. Et non pas pour enrichir des hommes, qui que ce soit, mais pour enrichir les autres. Oui, nous voulons enrichir les autres. Et nous vous disons que si vous obéissez à cette parole, eh bien, vous serez enrichis par Dieu, spirituellement et matériellement. Notre monde est dans la confusion. Et le compromis est partout autour de nous. Il nous a appelés à prêcher Jésus-Christ. Il nous a appelés à prêcher le salut. Il nous a appelés à prêcher le royaume des cieux. Il nous a appelés à prêcher la sainteté, l'intégrité, la vérité. Et c'est ce que nous allons faire. Si vous l'aimez, tant mieux. Si vous ne l'aimez pas, tant pis. Nous prêcherons quand même. Il n'y a qu'une chose qui peut changer la société, c'est le changement de l'homme intérieur. Et ça, aucun homme ne peut le faire, mais Jésus peut le faire. Alors, nous voulons vous le prêcher, afin qu'il vienne dans vos cœurs et que vous soyez changés. Mais il y a la confusion dans le monde, et il y a les compromis. Si bien que les nouvelles générations ne savent plus où aller. Ils ne savent plus ce qui est bien et ce qui est mal. Pourquoi? Parce qu'ils entendent le commerce spirituel partout. Le commerce spirituel. Ils entendent, ils ont perdu le sens des valeurs. On ne leur dit pas quittez votre péché, on leur dit donnez votre argent et vous serez bénis. On ne leur dit pas abandonnez l'esclavage dans lequel vous êtes. Venez à Jésus-Christ et repentez-vous. Mais on leur dit, vous voulez l'abondance, eh bien, donnez-moi, moi, tout ce que vous avez, et vous aurez 3 fois plus, ou 100 fois plus. Frères et sœurs, tout commence par un commencement. Et le commencement de la nouvelle vie et de l'abondance commence par le changement de la vie de l'individu. Par la repentance, par le changement de cet homme qui sera à l'image de Jésus, parce qu'il marchera dans ses traces. Aujourd'hui, tout est confondu, tout est dans un brouillard d'imprécision et d'à peu près, dans une théologie libérale, dans une théorie sans expérience. Non, 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 l'expérience. Vous ne savez pas, vous n'êtes pas allé à l'école de théologie, vous n'avez pas le diplôme de théologie, ça ne fait rien. Ce que nous désirons, c'est que vous ayez l'expérience. Et une fois que vous avez l'expérience, vous allez connaître la théologie. Et la vraie, la fondamentale. Et vous pourrez dire, je sais que je suis sauvé. On vous dira, mais comment vous savez? Vous savez, on ne peut pas être sauvé comme ça. On ne peut pas être sûr. Vous direz, oh, ça va, ça va. Moi, je connais. J'ai expérimenté. Et j'ai le témoignage du Saint-Esprit dans mon cœur. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est une fondation. Une fondation, un fondement, voilà, solide. C'est nécessaire. Il nous faut des points de repère. Il nous faut des exemples. Il nous faut une expérience. Mais on ne trouve plus cela. Chacun fait ce que bon lui semble, comme du temps des juges. La foi n'est plus le résultat de l'expérience, mais d'une adhésion intellectuelle à des théories. Si vous adhérez intellectuellement parlant à ce que je vous dis, vous faites bien, mais ce n'est pas suffisant. Il y a des gens qui viennent ici et qui adhèrent intellectuellement parlant. Ils viennent dimanche après dimanche. Mais cette adhésion intellectuelle ne change pas leur vie. J'en connais ici qui suivent des réunions pendant des mois et des années. Cette semaine même, j'ai eu le cas d'une personne, de la femme, de cette personne qui est venue me parler, qui vient ici année après année, année après année, il ne s'agit pas de 3 ans, de 4 ans, de 5 ans, de plus. Et il bat toujours sa femme. Et il se vante de vivre avec d'autres femmes. Et il a des enfants partout. C'est quoi ça? Et pourtant, intellectuellement parlant, il adhère. C'est une bonne parole. C'est la vérité. C'est bon. Pasteur Verneau, il prêche bien. J'ai rien à faire avec ça. J'ai rien à faire avec ça. Si vous venez simplement pour entendre un bon français, un bon vocabulaire, une bonne prononciation, des phrases qui se tiennent, eh bien, vous allez rien trouver. Vous allez rien trouver. Je me souviens, il y a bien des années, lorsqu'on me demandait de prêcher sur le campus universitaire, beaucoup d'étudiants venaient et ils disaient, « Ah, voilà, on va aller l'écouter. Lui, il parle un bon français. » Il venait pour le français. Peut-être qu'au-delà du français, ils ont appris quelque chose, je l'espère. Mes frères et sœurs, ce n'est pas nous qui faisons le travail. Vous pouvez venir dimanche après dimanche et ne pas changer. Mais vous êtes de plus en plus responsables. Responsables parce que connaissant, vous ne laissez pas le Saint-Esprit vous changer. Nous avons besoin d'être changés. Les 10 commandements sont tout aussi valables et encore plus que jamais nécessaires dans ces jours de confusion, de mélange. qui nous définissent les limites de notre liberté. Oui, la vraie liberté a des limites. Au-delà de ces limites, ce n'est plus la liberté, c'est la licence. Nous avons besoin de réfléchir sur nos actions, sur nos pensées. Les 10 commandements nous aident à connaître, à nous connaître, et à connaître la volonté de Dieu pour nous, à comprendre notre moralité personnelle et collective. Ils sont pratiques en ce qui concerne la vie et les relations humaines. Ces commandements nous apprennent le respect de l'autre et nous donnent le sens de l'harmonie avec la création de Dieu, où l'ordre doit régner afin que ce monde soit viable. Le monde n'est plus viable dès l'instant où on rejette les commandements et la loi. Il devient impossible à vivre. Ces commandements sont bénéfiques dans la vie de ceux qui s'abstiennent d'abuser de leurs semblables, qui s'abstiennent de dire des faux témoignages. Ils découvrent alors cela, que la vie a beaucoup à leur apporter en joie, en résultats positifs, en bénédiction. Ceux qui violent ces commandements, ils n'ont pas de joie dans la vie, ni de satisfaction, ni de stabilité, et leur vie se raccourcit d'autant plus. Donc ces commandements ont une grande valeur pour l'harmonie de la société. Ne les rejetons pas. Il est parlé du décalogue. Les 10 commandements en hébreu sont appelés littéralement les 10 mots ou décalogue. Les 10 paroles qui ne peuvent être changées, qui ne peuvent être modifiées, qui ne peuvent faire l'objet d'un vote à la majorité. Il n'y a pas de démocratie là. Il n'y a pas la vie de la majorité là. Il y a la vie de Dieu pour le bien de ses créatures. Et rien ne peut être modifié. Les 10 paroles de Dieu aux hommes sont gravées dans la conscience de chaque individu. Chaque individu, même celui qui ne connaît pas le livre et les commandements, a le sens de la vérité de ses paroles. Dans Exode 20, 1 à 17, nous avons le décalogue tel que sorti de la bouche de Dieu. Dans Deutéronome 5, 6 à 21, nous avons ces mêmes paroles répétées par Moïse au peuple, qu'il répète fidèlement avant d'entrer dans le pays de la promesse, afin qu'il sache bien que là sont les principes de base qui doivent gérer la nouvelle société. La loi de Dieu est donnée, mais le décalogue est placé comme un résumé de cette loi, un condensé qui comprend toute la volonté de Dieu pour nous. Et ce condensé est immuable, essentiel. Il est le fondement même pour le maintien et la viabilité de la société dans notre temps.
En ce qui concerne... Avec la venue de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, prédit par les prophètes et annoncé déjà dans la Genèse, le commandement est renforcé. Il n'est pas affaibli. Il n'est pas aboli. Il n'est pas rejeté. Les 10 commandements, loin d'être mis de côté, sont exprimés avec une nouvelle perspective et une plus grande force. Matthieu 5, 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. La loi ou les prophètes. Il n'y a pas que la loi, mais ce qu'a dit les prophètes sur l'inspiration du Saint-Esprit. Je ne suis pas venu pour l'abolir. Je suis venu non pour abolir, non pour abolir, non pour abolir, mais pour accomplir. Jésus a accompli tous les commandements. Il était le seul qui était capable de les accomplir. Et à cause de cela, la grâce pouvait opérer en notre faveur. Et il souligne qu'elle est si importante, cette loi, que pas même un trait de lettre ne passera. Pas même la plus petite chose de cette loi ne passera sans s'accomplir, sans être appliquée. Tout doit être respecté. Dans Jean 3, 24, il est dit, « Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. » Celui qui garde ses commandements. Voilà. Ça, c'est dans le Nouveau Testament. Après que Jésus a été offert. Remarquons la similitude entre le sermon sur la montagne et Jésus, d'une part, et la loi de Moïse. Moïse et la loi au mont Sinaï, d'autre part. Il y a une similitude entre les deux. Dans le sermon sur la montagne, Dieu nous révèle le nouveau Moïse, le plus que Moïse, en la personne de Jésus, qui donne une nouvelle loi, qui sera la base de la nouvelle alliance, du nouvel Israël, du peuple de Dieu. L'ancien et le nouveau se rencontrent en Jésus-Christ. L'ancien n'a pas été rejeté ou remplacé, mais il a été enrichi et renforcé. Les deux ont fait avec la vie, ont à faire avec la vie humaine et le comportement et la façon de vivre des hommes. Le Nouveau Testament n'a pas l'intention d'abolir quoi que ce soit de l'Ancien Testament. Le Nouveau donne à l'Ancien une dimension spirituelle plus profonde que l'Ancien n'avait pas. Le Nouveau ne touche pas seulement le comportement physique et moral, mais il va plus profondément. Regardez, par exemple, avec la loi concernant la circoncision de la chair. En Corinthiens 7, 19 nous dit, la circoncision n'est rien et l'incirconcision n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Et que nous dit encore l'apôtre? Il nous dit, soyez circoncis de cœur. Ah, la circoncision dans la chair ne concernait que l'homme et non pas la femme, n'est-ce pas? Mais la circoncision du cœur, il n'y a plus ni homme ni femme devant Dieu. Alléluia. Autrement dit, Jésus n'est pas venu supprimer la loi, mais il est venu l'accomplir, la renforcer, non seulement pour les hommes, dans la chair, extérieurement, mais pour les hommes et les femmes, intérieurement, dans l'homme intérieur, celui qui verra Dieu. Romains 10, 4. Il est dit, Christ est la fin de la loi. Alors il y en a qui vont dire, terminé pour la loi, nous avons Christ, c'est fini. Écoutez, le mot « fin » ne veut pas dire « cessation » de quelque chose, selon le texte original, mais veut dire « l'accomplissement », « la réalisation », « l'intention » qui a motivé l'action. Le but de la loi est d'amener l'homme à une relation juste avec Dieu. Elle trouve son accomplissement en Jésus-Christ. On ne sert pas Dieu n'importe comment. Voilà. On ne sert pas Dieu n'importe comment. Jésus a bousculé ses auditeurs lorsqu'il prêchait là dans le sermon sur la montagne, dans Matthieu 5, 21. lorsqu'il a dit, vous avez appris qu'il a été dit. Et il mentionne la loi de l'Ancien Testament. Et il continue en disant, mais moi, je vous dis. Ah, il donne une autre dimension à cette loi, plus sévère, plus personnelle, plus profonde. Jésus marque là son autorité au-dessus de Moïse. Elle donne une dimension plus grande et plus profonde à la loi qui doit toucher jusqu'à l'homme intérieur. Il va plus loin que l'acte. Il pénètre dans les pensées. Il pénètre dans les intentions les plus cachées. Par exemple, la colère, la rage folle. Jésus dit, c'est un meurtre digne de jugement. La convoitise, convoiter une femme, devient un adultère, dit Jésus, ce qui n'était pas dans la loi de Moïse. La répudiation, répudier sa femme, divorcer, et le remariage devient adultère, dit Jésus. Œil pour œil, dent pour dent, échanger en aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous veulent du mal. Ah, ne dites pas que la loi n'existe plus avec Jésus. Elle est renforcée, elle va plus profondément, elle fouille le cœur, elle fouille les intentions, elle ne touche pas seulement le corps extérieur, elle ne touche pas seulement l'être physique, elle touche l'être spirituel, celui qui demeurera éternellement. Cette loi des 10 commandements touche nos actions, notre comportement, notre intimité, nos relations publiques et familiales. Elle a affaire avec tout ce qui touche la vie physique et au culte que nous devons rendre à Dieu et tout ce qui touche à la morale. Mais Jésus, tout en reconnaissant la valeur morale de la loi de Moïse, y ajoute une plus profonde dimension spirituelle. Il dépasse le physique, il dépasse le temps et entre dans ce qui est éternel. Une nouvelle dimension. Et nous sommes dans cette nouvelle dimension, vous et moi. Comment pouvons-nous y parvenir? Par la grâce. Frères et sœurs, si tout simplement nous examinons les exigences de Jésus, qui sont au-delà des exigences de Moïse, nous allons dire, nous ne pouvons y parvenir. Combien de fois dans mon cœur, dans mes pensées, alors que l'extérieur est impeccable, il y a des choses qui ne glorifient pas Dieu. Combien de fois je me laisse aller à des pensées qui ne glorifient pas Dieu. Mais Jésus te dit, viens à moi, humilie-toi, demande ma grâce, et mon esprit en toi te purifiera, et tu iras de victoire en victoire. Si tu tombes aujourd'hui, demain avec cette même tentation, tu ne tomberas pas, car je ne veux pas que tu tombes, et mon esprit est en toi. Fais ta part, et Dieu fera la sienne. Baissons la tête. Seigneur, ta parole nous instruit encore. Seigneur, ta parole nous enseigne encore. Merci pour cette parole. Seigneur, aide-nous à comprendre la valeur de tes commandements. La valeur de ta volonté, car c'est ta volonté que tu exprimes, Seigneur, dans ces textes. C'est ta volonté, Seigneur. Et nous voulons faire ta volonté afin de vivre. Travaille dans nos cœurs. Ne nous laisse pas, Seigneur, que nous puissions faire une différence dans la société de notre monde. Ô Jésus, nous avons été violateurs. Nous avons eu l'apparence, mais la réalité, souvent, n'a pas été ce qu'elle devait être, Seigneur. Elle était apparente pour les autres, comme pour les pharisiens, mais l'intérieur était souvent corrompu. Pardonne, Seigneur. As-tu besoin de pardon? As-tu été un homme avec une apparence, mais dont l'intérieur était corrompu? Si tel est le cas, lève-toi où tu es et nous prierons pour toi. L'apparence était bonne, l'extérieur était bon. Il n'y avait pas de colère, il n'y avait pas d'adultère, il n'y avait pas de mauvaises actions. Mais l'intérieur, c'est ça que Dieu voit. Ne veux-tu pas te repentir? Y en a-t-il d'autres encore? Frères et sœurs, n'endurcissez pas vos cœurs. Que le Seigneur nous aide à nous juger nous-mêmes. Que le Seigneur nous aide à nous juger nous-mêmes. Je sais que chaque fois je vous demande de vous lever. Je sais que chaque fois, ce n'est pas un rite, mais c'est pour vous mettre devant votre conscience et pour vous faire voir la nécessité de s'humilier, de reconnaître devant Dieu l'état de son cœur. L'état de son cœur, nous sommes sauvés, nous avons cru, mais voilà, l'homme intérieur est trop souvent souillé et nous acceptons les suggestions de Satan. Seigneur, pardonne-nous. C'est vrai que Satan nous suggère toutes sortes de choses, certaines fois, que nous savons être mauvaises. Et au lieu de les chasser, au lieu de les réprouver, Seigneur, nous les entretenons et nous les laissons occuper notre pensée et notre esprit. Pardonne, Seigneur, pardonne-nous, s'il te plaît. Car si les autres ne nous voient pas, toi tu nous vois. Toi tu nous connais, Seigneur, et tu connais nos cœurs. Père, nous nous humilions devant toi et nous te demandons, Seigneur, de nous aider à avancer dans la sanctification. Car ta loi, tes commandements, ta vérité subsistent, Seigneur. Et ce n'est que par la grâce que nous pouvons être sauvés. Et nous faisons appel à ta grâce maintenant, au nom de Jésus.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.